Les fameuses écoutes téléphoniques, on vous en parle tous les jours depuis plusieurs semaines, c'est devenu pour ainsi dire le nouveau feuilleton médiatique du moment.
Mais avant de revenir plus en détail sur le fond des affaires qui concerne notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy, nous allons effectuer un petit retour en arrière avec l'affaire des écoutes commanditées par François Mitterrand durant son premier mandat. Peut-on comparer les deux affaires, celle d'un conseiller sulfureux, Patrick Buisson, captant ses conversations avec un chef de l'État à son insu, ou celle d'un chef de l'État espionnant quelques 150 personnes pour des motifs discutables en marge des circuits officiels? À coup sûr, la seconde affaire est d'une importance capitale, elle, puisqu'elle implique la responsabilité directe du président de la République et son abus de pouvoir. À gauche, on semble avoir oublié le sens de la mesure, ou le sens de l'histoire, ou les deux.
Une affaire d'État, s'évanouit le porte-parole du PS, David Assouline, à l'évocation des écoutes de Patrick Buisson, cependant que Harlem Désir exige la création d'une commission parlementaire. On n'a pas souvenir d'une telle indignation socialiste lorsqu'en mars 1993, Libération révèle les interceptions par l'appareil d'État entre janvier 83 et mars 86.
Les écoutes de l'Élysée, c'est l'un des premiers scandales de la présidence Mitterrand. En 1982, le chef de l'État souhaite la création d'une cellule antiterroriste à l'Élysée. Plusieurs gendarmes, dont Christian Proutot, la composent. Il s'agit alors d'assurer la protection du président, ébranlée notamment après l'attentat de la rue des Rosiers, et pour les gendarmes de dénicher de vraies informations afin de gommer l'affaire des Irlandais de Vincennes. Mais l'objet de la cellule déborde vite de ce cadre qu'on pourrait qualifier d'intérêt général. Les gendarmes ouvrent de plus en plus leurs oreilles, les 20 lignes téléphoniques mises à leur disposition tournent à plein régime, hors des circuits officiels, au service quasi personnel de François Mitterrand.
Avec des mobiles souvent fallacieux, on épie Jean Dernallier, décidé à révéler l'existence de Mazarine Pinjot, Carole Bouquet, peut-être parce que son mari d'alors était proche de la présidence algérienne, Charles Pasqua, l'académicien Michel Droit, et dans cette liste assez extravagante, le journaliste du Monde Edoui Planel, dont la mise sur écoute fut demandée expressément par François Mitterrand.
L'affaire est jugée en 2004. Sur le banc des accusés, 12 prévenus, 12 maillons de la chaîne, du super gendarme Christian Proutot à l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, Gilles Ménage, en passant par celui du Premier ministre Laurent Fabius, Louis Schnetzer, François Mitterrand, décédé 8 ans plus tôt, n'est pas moins au cœur des débats. C'est le tribunal qui l'affirme. Un grand nombre des écoutes reprochées aux différents prévenus ont pour origine une décision ou un choix émis par la plus haute autorité de l'État, à savoir le président de la République. 7 des 11 prévenus, dont Proutot et Ménage, sont condamnés, ce que confirmera la Cour de cassation.
On va maintenant faire une première pause musicale avec Yorne Gold du groupe Fictions, qu'on aura ensuite en ligne pour une petite interview.
We'll be right back.
Jörn Ingold, donc, du groupe Fictions, et nous sommes a priori avec Vincent, compositeur. Est-ce que t'es là ?
Ouais, salut, ça va ?
Yes, bah, ça va bien, et toi ?
Ouais, nickel.
Bah, merci d'être là, on t'a prévenu un petit peu en dernière seconde.
Ouais, mais c'est cool, hein. Moi je suis dispo, ça me fait plaisir d'être avec toi, donc mon petit coquin, donc c'est cool.
Figure-toi qu'en plus on n'est pas tout seul, il y a Rosalie qui est avec nous.
Salut Vincent.
Eh ben salut tout le monde. Salut.
Ouais, la dernière fois qu'on t'avait eu en ligne dans Radio Campus Rennes, c'était dans Time to Blast il y a près d'un an je crois, pour parler de ce Moala, ton groupe de métal. Et là, donc, on va parler, donc pas forcément de métal, hein, comme on vient de l'entendre, avec Fictions, un de tes nouveaux projets. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de la jeunesse de ce nouveau groupe ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers des sonorités un peu plus ambiantes comme ça, un peu plus posées ?
Bah écoute, c'est tout ce qui est musique électronique, j'en ai toujours plus ou moins fait, y compris dans ce moment-là d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de passages électro, quoi. J'ai toujours écouté de la musique électronique, j'en ai toujours fait, autant des trucs bien perchés comme Aphex Twin, de l'IDM et tout ça, mais aussi pas mal de vieux sons des années 80, quoi.
Yes.
Et voilà, hein, je pense que plus on vieillit, plus on essaie de se rapprocher de ce qu'on a connu quand on était encore innocent, quoi.
Quand on a... Yes.
Du coup, vu que je suis né en 83, bah voilà, hein, je me suis... de me rapprocher un petit peu de cette atmosphère de un petit peu début années 80, même début 90, quoi, bah voilà, toute cette période, quoi.
Parce que le morceau qu'on vient d'écouter est quand même assez représentatif des autres choses que tu as pu composer dans Fictions.
Bah, on va dire que c'est un des plus posés, un des plus planants, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette ambiance vraiment un petit peu aérienne, et aussi, comme je disais, hein, c'est super influencé par les sons des années 80, fin 70, 80, tout ce qui est de Moroder, ce genre de compositeur, quoi.
Et s'agissant, parce que dans ce mois-là, on avait eu l'occasion d'en parler dans l'interview qu'on avait faite avec Time to Blast, pour autant, au niveau des textes, c'est quand même très profond, il y a souvent des concepts assez fouillés, assez cohérents, enfin, assez, qui laissent pas mal de place à la rêverie, mais qui sont quand même assez travaillés. Là, pour Fictions, est-ce que tu as aussi des thématiques, un univers qui bâtit sa cohérence au niveau des textes, de la musique, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il en est des paroles, ou même du nom de ce morceau, Jörn Ingold. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tout l'aspect extra-musical, en fait ?
En fait, c'est vrai que je pense que quand on est créatif, on a tendance à développer un univers qui se tient, une espèce de tout cohérent, quoi, qu'on fasse... On peut très bien faire du dessin, plus, je sais pas moi, du théâtre, plus de la musique. Mais en général, quand on est cohérent, quand on s'écoute soi-même, vraiment, ce qu'on a au fond, on va souvent tendre vers les mêmes univers, vers les mêmes thèmes. Et là, c'est un peu le cas, quoi. Donc c'est vrai que les paroles sont beaucoup plus simples. Mm-hmm. C'est en anglais, déjà, c'est pas en français, c'est plus... pur, on pourrait dire, d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de mots assez simples qui partent de suite, mais après c'est vrai que c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, en gros, c'est-à-dire cette espèce de relation entre l'homme, sa conscience, son esprit, si tant est qu'il en ait un, son corps aussi, qu'on peut voir comme un outil ou comme une prison, suivant son humeur ou son état. Mmh. Et donc on a ces thèmes qui reviennent aussi dans Fiction, quoi. D'ailleurs, le premier album que je suis en train de finir va s'appeler Invisible Walls, donc les murs invisibles. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est assez représentatif du thème fondamental que je traverse et que j'aborde depuis toujours, en fait, quoi.
Ouais, même dans ce mois-là, on avait l'occasion d'en parler un petit peu dans d'autres contextes, mais c'est par rapport justement à Invisible Walls, tu m'avais parlé justement des murs, enfin, que quelque part qui dans lesquels pouvait être emprisonné notre perception, et ça m'avait rappelé le petit logo qu'on pouvait retrouver sur la pochette de Résilient de ce mois-là, justement, où on voyait un œil enfermé dans une petite prison de verre. Enfin, tu fais un lien direct entre le nom de l'album de Fictions et ce logo de ce mois-là, ou pas nécessairement?
Bah, tu vois, c'est pas du tout conscient. Là, tu m'en parles et je suis d'accord avec toi, mais jamais j'avais pensé à créer des liens. Non, franchement, c'est pas délibéré, quoi.
D'accord.
Après, voilà, comme je t'ai dit, c'est vrai que en tant qu'entre guillemets artiste, quoi, je sais bien que je suis pas.
Si, si, un petit peu.
Je suis pas un grand monsieur de la chanson française, mais, mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours lorgner vers les mêmes sujets. Après, c'est sûr que ça fonctionne par période, parce qu'il y a des ambiances que j'aborde avec fiction qui sont absolument inabordables avec voilà, donc des choses assez légères, des choses assez ensoleillées, je dirais, parce que c'est pour moi c'est quelque chose de fondamental dans la musique des synthétique des années 80. Bon, t'as tout un versant qui est très sombre avec bon voilà, hein, tout ce qui est goth, tout ce qui est dark wave et compagnie, mais c'est pas ce que je préfère personnellement en musique synthétique. C'est vrai que je préfère à la limite les codes plus américaines, le côté vraiment côte ouest à fond, le côté soleil, quoi. Même
yes.
Il peut y avoir une certaine nostalgie aussi derrière tout ça, quoi.
Mm-hmm.
Et du coup voilà, on peut marcher par période avec des thèmes et des univers, mais c'est vrai que ce soit au niveau des thèmes, quand j'entends thème, c'est autant des thèmes dans les paroles que des thèmes mélodiques, que des thèmes d'ambiance de la musique. On a tendance à, enfin, j'ai en tout cas tendance à rester dans les mêmes sphères, on va dire, quoi.
Yes, je comprends bien. Cool. Bah, du coup, tu me dis, ce premier album, Invisible Walls, tu vois ça pour quand?
Alors là, bah écoute, je suis en train de le finir avec. Avec pas mal d'invités qui seront présents, parce que je voulais pas faire le chant tout seul, et bah, je voulais aussi avoir des titres avec du chant féminin, ce qui est chose faite d'ailleurs, bah, puisqu'il y a un extrait là sur mon SoundCloud, bah, pour ceux qui veulent écouter, c'est Fiction, s'écrit F-I-X-I-O-N-S, et ouais, il y a un petit avant-goût de l'album, puisqu'il y a déjà 2-3 titres qui seront sur le longue durée, puis je prévois ça d'ici... un ou deux mois, bon, personne l'attend, donc ça sert à rien de sortir de date précise, mais voilà, d'ici.
Si, si, moi je l'attends.
Le temps, de... le temps de tout finir et de chercher un petit label pour m'aider à soutenir un petit peu, et puis voilà, quoi. En tout cas, merci beaucoup, hein, merci beaucoup d'avoir diffusé un titre et de m'avoir laissé parler. Mais
je t'en prie. C'était... Bah, après, je sais pas, oui, si on aurait pu parler d'écoute téléphonique ou de procédure pénale, oui, non.
Bah, disons que c'est pas mon domaine, et puis je pense que. Ouais, ça fait un petit peu dans votre créneau une petite aération qui permet de encore mieux retomber sur vos pattes après.
Absolument, absolument. Bah et du oui. Coup, bah écoute, merci beaucoup et bah écoute, j'espère.
Ouais,
j'espère à bientôt sur les ondes de Radio Campus Rennes 88.4.
Tu vois, tout à fait, tout à fait.
Et nickel, ouais, bah à très bientôt du coup.
Eh ben ça marche. Bah bon après-midi à vous et encore merci.
T'inquiète. Bon après-midi. Salut.
Allez, à plus, ciao.
Aujourd'hui à ce micro, je viens dire que je vais saisir le président de la République.
Ah bon ?
Mais oui, vous vous souvenez de l'affaire Schuller-Maréchal, cette affaire en pleine campagne présidentielle 1995, avec des écoutes absolument illégales qui ont d'ailleurs été annulées un jour par la Chambre de l'Instruction. Eh bien, le président François Mitterrand s'est saisi
oui, non,
du
ben,
problème.
Oui, on parle de François Hollande. Qu'est-ce que vous voulez
je
alors
je vais saisir
vous
le président de la République, qui est le garant et le gardien des libertés publiques, afin qu'il puisse arbitrer dans cette affaire et prendre les mesures qui conviennent, qui sont à son niveau, car cela relève maintenant de son niveau. On est au-dessus des juges d'instruction, on est au-dessus du parquet. Il s'agit de la défense de nos libertés publiques. Et les libertés publiques, c'est le secret professionnel chez l'avocat, le secret professionnel chez le médecin, le secret professionnel chez les curés.
Mais vous êtes en train de nous faire trembler comme si la démocratie était menacée et les libertés.
La démocratie
est menacée. Vous voulez dire que
la
justice et la politique flirte trop en ce moment.
Lorsque les libertés publiques sont atteintes, la démocratie s'écroule.
Vous venez d'entendre Pierre-Olivier Sûr, le bâtonnier de Paris, exprimer il y a maintenant 2 semaines son indignation face aux mises sur écoute dont ont fait l'objet Nicolas Sarkozy et son avocat Maître Thierry Herzog. Un article paru le 7 mars dernier sur le site du Monde répond aux questions suivantes, à commencer par « Les juges avaient-ils le droit de mettre Nicolas Sarkozy et son avocat sur écoute ?»
Depuis qu'il n'est plus président de la République, Nicolas Sarkozy n'est plus couvert par l'immunité présidentielle. Il est donc considéré comme un justiciable parmi d'autres. L'article 100 du Code de procédure pénale, qui encadre les interceptions de correspondance, spécifiques en matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Les juges étaient donc parfaitement autorisés à mettre Nicolas Sarkozy sur écoute. La décision doit être écrite et elle est prise pour une durée de 4 mois. Délai à la fin duquel une nouvelle décision doit être formulée pour prolonger le dispositif. Toutes les interceptions sont retranscrites et mises sous scellé.
Les juges avaient-ils le droit d'écouter les conversations de Nicolas Sarkozy avec son avocat ?
Les conversations entre client et avocat sont confidentielles. Leurs échanges ne peuvent donc être transcrits, mais peuvent être écoutés si le client est lui-même écouté. S'il apparaît dans la conversation que l'avocat est soupçonné d'une infraction, les juges peuvent également le placer, lui ou son cabinet, sur écoute. Il suffit pour cela de prévenir le bâtonnier, comme le précise l'article 100-7 du Code de procédure pénale. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Les juges pouvaient donc placer sur écoute Maître Thierry Herzog dès lors que des soupçons se portaient sur lui.
Nicolas Sarkozy a été écouté dans le cadre d'une écoute judiciaire. Décidée par un juge d'instruction, elle concerne les crimes et délits pour lesquels la peine prévue est d'au moins 2 ans de prison. Des restrictions particulières existent pour certaines professions, comme les avocats. Dans ce cas, le bâtonnier doit en être informé. C'est ce qui a dû se passer pour Nicolas Sarkozy, inscrit au barreau de Paris. Théoriquement, seul le juge et son équipe d'enquêteurs sont au courant. Mais dans les faits, beaucoup d'anciens grands flics jugent qu'il est peu plausible qu'un ancien président ait été écouté sans que le gouvernement soit au courant.
Parce que nous ne sommes pas au royaume des bisounours et qu'on ne met pas pendant 1 an le président de la République, l'ancien président de la République, sur écoute sans que les autorités de l'État en soient informées. On ne sait pas ce qu'il peut en sortir. Il peut en sortir un secret d'État, il peut en sortir quelque chose de politique étrangère, il peut en sortir n'importe quoi. C'est possible qu'il n'ait pas été informé, mais auquel cas, j'allais dire, c'est une faute professionnelle.
D'après le Canard enchaîné, Christiane Taubira en a été informée le 26 février dernier. Dans une circulaire datée du 31 janvier dernier, elle demandait d'ailleurs au parquet de faire remonter toutes les affaires sensibles jusqu'à elle.
Vous l'avez entendu, selon les gendarmes et policiers interrogés sur le sujet, le fait qu'un ancien président de la République soit mis sur écoute pendant près d'un an sans que des membres du gouvernement n'en soient informés relèverait de la plus grande naïveté. S'agissant du contenu à proprement parler de ces écoutes, on écoute désormais un reportage diffusé la semaine dernière sur BFM TV.
C'est un ensemble de manœuvres machiavéliques que ces écoutes dévoilent selon Mediapart. Des discussions entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog.
On découvre notamment que les juges entre M. Herzog et M. Sarkozy sont qualifiés de bâtards. On découvre que pour tromper la vigilance des policiers sur les téléphones achetés avec de fausses identités, hein, M. Sarkozy et M. Herzog organisent de fausses conversations sur leur ligne officielle.
Des mises en scène pour dissimuler des complicités. Car d'après Mediapart, les deux hommes ont des taupes dans tous les appareils d'État. La première, de taille, est magistrat au sein de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Il les aurait notamment aidés dans l'affaire Bettencourt. Le 29 janvier dernier, explique le site d'information, il leur aurait appris, après avoir déjeuné avec l'avocat général, que ces réquisitions allaient conclure à l'annulation de la saisie des agendas présidentiels. Autre complice, cette fois pour la seconde affaire qui touche l'ex-chef de l'État, le financement présumé de sa campagne par le régime de Kadhafi. Selon Mediapart, le 1er février, Nicolas Sarkozy a par exemple été informé d'un projet de perquisition de ses bureaux. Il évoque des amis que ses écoutes n'ont visiblement pas permis d'identifier.
Des dénonciations gravissimes, donc, qui tendraient à affirmer que Nicolas Sarkozy et son avocat, Maître Thierry Herzog, auraient eu recours à des indicateurs, parmi lesquels des avocats à la Cour de cassation. On écoute maintenant la réponse de Maître Herzog à ces accusations.
Voici la lettre que Thierry Herzog a adressée au procureur de la République de Paris. L'avocat de Nicolas Sarkozy affirme qu'il a reçu tout à fait légalement le fameux rapport des juges, et non via une taupe à la Cour de cassation, comme l'affirme Mediapart.
Je suis en mesure de vous apporter la preuve que dès le 27 janvier 2014 à 16h06, ce rapport m'avait été adressé par courriel par mon avocat au conseil, Maître Patrice Pinozzi.
C'est tout à fait exact et c'est tout à fait normal et c'est comme ça que cela se passe dans tous les dossiers devant la Cour de cassation.
Dans cette même lettre, Thierry Herzog conteste également le bien fondé des écoutes.
La retranscription de ces écoutes est totalement illégale et irrégulière.
Faux, selon Mediapart, qui estime que tout a été fait dans le strict respect de la loi.
Les écoutes sont totalement légales, elles ont été ordonnées par des juges d'instruction, donc je ne sais pas si M. Herzog a perdu son code pénal en route, mais ce qu'il dit est totalement faux.
Enfin, Thierry Herzog demande à ce que les éléments de la procédure soient rendus publics pour que personne, dit-il, n'ait plus aucun doute autour des accusations dont fait l'objet Nicolas Sarkozy.
Vous l'avez entendu, Thierry Herzog avait déclaré que ses mises sur écoute étaient illégales, ce qui est démenti par Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. L'occasion pour nous de faire un dernier appel des règles entourant la mise en œuvre de telles écoutes.
Valérie Malabat, professeure à l'Institut des sciences criminelles et de justice de l'Université de Bordeaux, a répondu la semaine dernière aux questions des chroniqueurs du site d'Allos étudiants sur le sujet des écoutes téléphoniques, justement. Nous vous proposons donc dès maintenant une retranscription d'une partie de cette interview fort éclairante sur le sujet.
Quel est le droit de l'homme mis en danger dans les affaires qui concernent Nicolas Sarkozy ?
C'est le droit à la vie privée notamment, qui peut être atteint dans ces hypothèses, puisque les propos tenus dans des réunions professionnelles non publiques sont considérés comme relevant du droit à la vie privée. Si de ce droit on déduit la protection du secret des correspondances, la protection du secret des correspondances entre un avocat et son client, qui relève du secret professionnel, peut également éventuellement porter atteinte au droit de la défense.
Mais quel est le cadre d'une limitation de ce droit, c'est-à-dire d'une interception des correspondances ?
Les écoutes téléphoniques judiciaires sont licites à la condition qu'elles respectent les exigences de la légalité, de nécessité et que les droits de la défense soient garantis.
L'exigence de légalité est remplie par le droit français qui fixe aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale les conditions dans lesquelles le juge d'instruction peut ordonner l'interception des correspondances. Elles ne peuvent ainsi être ordonnées que par un juge d'instruction, par une décision écrite non susceptible de recours et à la condition que les nécessités de l'enquête l'exigent et que les infractions en cause soient suffisamment graves, crimes ou délits punis de 2 ans ou plus d'emprisonnement. En matière de criminalité organisée, les écoutes peuvent également être ordonnées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.
Ces textes prévoient d'ailleurs les conditions particulières dans lesquelles les correspondances d'un avocat peuvent être interceptées. L'article 100-7 du Code de procédure pénale dispose ainsi que le juge d'instruction doit informer le bâtonnier, nous l'avons déjà dit, de l'interception de la ligne dépendant du cabinet ou du domicile d'un avocat. Et l'article 100-5 alinéa 3 du même code indique que ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.
La jurisprudence a précisé ces exigences en posant que la conversation avec un avocat peut être transcrite dès lors qu'elle permet de faire présumer la participation de l'avocat à une infraction pénale, même si ces faits sont étrangers à la saisie du juge d'instruction.
Le respect des droits de la défense implique donc de permettre à l'individu en cause de pouvoir contrôler les conditions des écoutes pour vérifier que l'ingérence de l'État dans sa vie privée a été limitée à ce qui est nécessaire dans une société démocratique, pour reprendre les mots de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'administration peut-elle procéder à des écoutes téléphoniques ?
L'administration pénitentiaire peut procéder à des écoutes téléphoniques des conversations des détenus sous le contrôle du procureur de la République.
Mais plus largement, les écoutes administratives sont prévues par le Code de la sécurité intérieure. Elles doivent être autorisées par le Premier ministre ou par l'une des deux personnes qu'il a spécialement désignées, sur proposition des ministres en charge de la Défense, de l'Intérieur ou des Douanes, et seulement pour des affaires intéressant la sécurité nationale. Prévention du terrorisme, par exemple.
L'autorisation doit être accordée par une décision écrite et motivée. Cette autorisation est évidemment limitée dans le temps, 4 mois renouvelables, et surtout les enregistrements doivent être détruits 10 jours au plus tard, à compter de la date à laquelle ils ont été effectués. Seuls les renseignements en relation avec les affaires intéressant la sécurité nationale étant retranscrits.
Enfin, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité assure le contrôle de la légalité de ces opérations.
Comment la garde des Sceaux est-elle garante de l'indépendance de la justice ?
L'indépendance de la justice est avant tout garantie par la Constitution. L'article 64 de la Constitution de 1958 déclare ainsi que « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. »
Parce que le statut des magistrats relève des lois organiques et non des lois ordinaires, le Conseil constitutionnel en est donc systématiquement saisi, ce qui lui permet d'exercer son contrôle et de veiller au respect de l'indépendance des magistrats. L'instauration du Conseil supérieur de la magistrature répond au même objectif, Et pour marquer davantage son rôle de garant de l'indépendance des magistrats, depuis la loi du 23 juillet 2008, le président de la République n'en est plus le président et le garde des Sceaux n'en est plus le vice-président.
C'est ainsi que le CSM, Conseil supérieur de la magistrature, qui propose les magistrats du siège pour les postes les plus importants, Cour de cassation, président de Cour d'appel et de TGI, tandis que pour les autres postes, il émet un avis conforme ou non conforme sur le projet de nomination qui va lier la garde des Sceaux. Pour les membres du parquet, en revanche, le ministre de la Justice n'est pas lié par l'avis donné par le CSM. La garde des Sceaux peut donc garantir l'indépendance de la justice et en donner également l'apparence en se conformant aux avis donnés par le CSM sur les nominations des membres du ministère public.
Là-dessus, la loi du 25 juillet 2013 est également allée dans le sens d'une amélioration de l'indépendance des membres du parquet en supprimant la possibilité qui était auparavant offerte au garde des Sceaux d'adresser des instructions dans les affaires individuelles aux magistrats de façon directe. Cette interdiction avait d'ailleurs été mise en application par l'actuel garde des Sceaux avant même le vote de cette loi. Dernière pause musicale dès maintenant avec Me siento solo d'Adanowski.
Me siento solo.
Siento solo d'Adan Jodorowsky, mieux connu sous le nom d'Adanowski.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver Droit Devant sur le www.radiocampusrennes.fr.
Merci beaucoup à Claude pour la technique. Merci à Vincent Cassard qu'on a écouté, compositeur du groupe Fictions, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud avec Fiction SoundCloud. Et à dans deux semaines. Merci beaucoup. Merci Rosalie.
Merci.